Déjà, il faut que je commence avec un peu de contexte, parce que le contexte, en parlant de Star Wars, c'est super important, OK? On avait eu 3 ans pour digérer la menace fantôme. 3 ans, c'est pas rien. Et l'ambiance générale à l'époque était que ça pouvait pas être pire que la menace fantôme. Impossible. Je me suis retrouvé au cinéma avec le même groupe d'amis avec qui j'étais allé voir la menace fantôme 3 ans auparavant, et je peux vous dire tout de suite que même dans la voiture, la tension était palpable. Et si dans la voiture, la tension était palpable, un coup assis dans la salle, cette tension-là a laissé sa place à une nervosité globale. Tu sentais que tout le monde dans la salle était nerveux. Qu'est-ce qui était sur le point de voir, là? L'écran Star Wars est arrivé et en moins de 5 minutes, j'ai entendu le gars en arrière de moi dire ça.
C'est quoi ça, cette explosion-là, tabarnak?
Aujourd'hui à Dimanche Navet, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Et ça commence maintenant. L'histoire de l'épisode 2 est à la fois extrêmement simple et hyper complexe, OK? Déjà, fan d'intrigues politiques, vous ne serez pas déçus. Parce que la base de l'épisode 2, c'est que d'un côté, t'as le sénateur Palpatine, ça va devenir l'empereur, qui manigance, OK, pour prendre le contrôle du Sénat et avoir son armée. De l'autre, t'as la guilde des marchands, oui, on s'était ennuyé d'eux. Ils manigancent également sous l'influence de Palpatine, donc Palpatine influence les deux côtés, pour que eux aussi y aient leur armée. Eux, ils veulent la même armée que dans le 1, parce que ça a super bien marché, leur petit robot facile à tuer. Ils veulent la même chose, encore plus de petits robots faciles à tuer. Bonne nouvelle pour tout le monde, il n'y a plus de blocus commercial. Non. Ça a été remplacé par des intrigues de coulisses.
Je vais lui en parler. La sénatrice ne refusera pas d'obéir à un ordre du conseil.
Et même si les intrigues politiques de Palpatine ont la subtilité d'un télé-novelhouse, eh bien, les Jedi s'en rendront jamais compte. On apprendra la création d'une armée de clones commandée par le Jedi Sifo Dyas, qu'on connaît ni du cul ni de la tête. Un Jedi duquel on n'avait jamais entendu parler avant et qui aura besoin de plusieurs séries et animés qui sortiront dans les 20 années d'après pour justifier son existence.
Le maître Jedi Sifo Dyas est bien toujours membre du Conseil des Jedi.
De l'autre côté, l'attaque des clones nous permet de passer plus de temps avec Obi-Wan et de découvrir des personnages incroyables. Comme Dex, un cuistot à 4 bras qui connaît Obi-Wan parce qu'il connaît. Ou un cloneur à long cou qui clone avec son long cou. Jango Fett fait une apparition là-dedans. Et son fils Boba Fett aussi. Parce qu'eux, ils sont protégés par la conspiration, à quelque part.
Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers.
Et bien sûr, le comte Dooku, ancien Jedi, maintenant devenu seigneur Tyrannus. Il arrive tard dans le film, lui. Puis, quand tu y repenses, il sert pas à grand-chose. Mais ça prenait un méchant.
C'est un politicien idéaliste. Ce n'est pas un assassin.
Autre conspiration, toujours en lien avec la guilde des marchands et les jeux de pouvoir de Palpatine, il y aura une tentative d'assassinat contre Padmé. Ça, c'est l'explosion tout pourrie que je vous ai montrée au début. Pour la protéger, on enverra Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, son jeune apprenti.
Annie, c'est fou ce que tu as grandi.
Anakin se retrouvera à devoir protéger Padmé contre vent et marée et ce rapprochement-là créera la véritable histoire de l'attaque des clones, l'histoire d'amour entre Padmé et Anakin, qui mènera à la naissance de Luke et Léa. Mais j'y reviendrai à cette histoire d'amour-là plus tard dans la vidéo. Au début du film, George Lucas installe tout de suite le concept du « c'est de la magie, ferme ta gueule ». De quoi tu parles? C'est de la magie! Non! Mais c'est de la magie. Ferme ta gueule. Vous remarquerez également que les Jedi ont tendance à utiliser la force quand ça fait l'affaire du scénario. Quoi.
Ça aussi, je déteste.
L'attaque des clones nous apprendra également que dans l'univers de Star Wars, il y a des gens qui ont des problèmes de drogue.
Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse?
Tu ne vends pas de bâtons de la mort.
Et qu'à quelque part, les Jedi, c'est un peu comme des flics des années 80, OK? ils ont leur propre loi, OK? Et ils ont le pouvoir inexpliqué de faire ce qu'ils veulent.
Jedi en mission, reprenez vos discussions.
Et je me poserai aussi toujours la question suivante. Jango Fett, OK, c'est un chasseur de primes. Et à un moment donné, ils doivent tuer Padmé. Mais pourquoi est-ce que Jango Fett engage un autre chasseur de primes pour tuer Padmé? Pourquoi il ne fait pas le travail lui-même, comme c'est apparemment le meilleur? Pourquoi il engage quelqu'un? La bonne nouvelle de l'attaque des clones, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps avec Obi-Wan et on va se retrouver sur Kamino, une planète de cloneurs, où Obi-Wan, il va découvrir qu'il y a 200 000 clones de Jango Fett qui existent, prêts à devenir une armée au service de la République. On va également découvrir que George Lucas ne pouvait pas s'empêcher de mettre un jeune Boba Fett dans le film. Parce que le gars a des figurines à vendre. OK?
Papa, c'est Taunui!
Et pendant que Obi-Wan sert à l'intrigue, Padmé et Anakin, eux, voient bourgeonner leur amour. Et tout ça se passe devant nos yeux avec des créatures en numérique super pourries. Anakin, lui, finit par avoir un rêve, OK, ou une prémonition, ou un mauvais cauchemar, mais en tout cas, il rêve que sa mère est en train de se faire tuer. Et comme George Lucas ne pouvait pas s'empêcher de retourner sur Tatooine, Anakin et Padmé retournent sur Tatooine pour sauver sa mère. Mais juste avant de vous amener sur Tatooine, Obi-Wan et Jango Fett se battront sous la pluie. Oui. Un combat qui, bien sûr, n'aura pas de conclusion, parce qu'on n'est pas rendu là dans le film, mais qui mènera à une chasse-poursuite dans l'espace qui se terminera par un méchant gros boom. Et enfin, Anakin et Padmé arrivent sur Tatooine.
J'étais sûr que vous reviendriez, je le savais.
Et maintenant, laissez-moi vous parler d'amour. Tout le monde se souvient de l'incroyable discours d'Anakin Skywalker sur le sable. Ça, ça a marqué une génération. Et s'il est très con en anglais, il est quelque peu sauvé par la traduction française de la VF.
Agressif, irritant. Il s'insinue partout.
Et apparemment, ce qu'on oublie souvent de souligner, c'est que Padmé, quand elle entend parler de sable, bien, elle devient chaude comme de la braise. Est-ce que Anakin a des comportements douteux face à Padmé presque tout le long du film? Moi, personnellement, je pense que oui. Est-ce qu'on frôle le mec obsessionnel? Aussi. Ouais.
Je t'en prie, ne me regarde pas comme ça.
Ensuite, moi, je comprends que le gars a choisi de devenir Jedi, OK? Un moine asexué qui n'a pas le droit de toucher aux femmes. L'amour est interdit. En tout cas, la consommation de l'amour est interdite. Mais Padmé, elle est sénatrice. Eh ben oui. Pourquoi elle n'a pas le droit de coucher avec qui elle veut? Hein? C'est une jeune femme forte, ambitieuse, déterminée, qui est en plein contrôle de sa destinée. Pourquoi elle n'a pas le droit de se taper Anakin quand elle a le goût de se taper Anakin? Pourquoi elle ne peut pas juste s'amuser avec lui pendant un week-end à Naboo et passer à autre chose après?
Toi, tu appartiens aux Jedi et moi, j'appartiens au Sénat.
Parce que quand George Lucas décide de nous construire une histoire d'amour, faut s'accrocher. Parce que si Anakin nous a montré plein de comportements douteux depuis qu'il a revu Padmé, Padmé est pas blanche comme neige dans tout ça. Parce que déjà, elle dit tout le temps qu'elle peut pas, qu'elle veut pas, mais elle est tout le temps collée sur lui, OK? Il y a juste un mot pour ça, hein? Puis c'est pas un mot que j'utilise à la légère. C'est une agace pissette. Ensuite, il faut retourner sur Tatooine pour continuer de parler de cette histoire d'amour-là. Parce que je vous ai dit tantôt que Anakin devait aller sur Tatooine sauver sa mère. Donc Anakin, quand il arrive sur Tatooine, il va apprendre que sa mère a été kidnappée par des Tuxans. Ouais, des pilleurs Tuxans, des hommes des sables.
Mais ce sont des monstres de barbarie.
Donc là, lui, il va partir essayer de sauver sa mère en espérant qu'elle soit toujours en vie. Il va arriver dans le camp des pillards, il va la trouver. Ça va pas bien. Non. Ça fait un mois qu'elle est là, elle a été torturée, elle est aux portes de la mort.
Comme je suis fière de toi.
Et là, ben, elle va mourir dans les mains de son fils, Anakin. Et ça, ça va l'énerver, OK? Le jeune Skywalker va décider de tuer tout le monde. Sans aucune retenue. Tout le monde. Vous voyez que des fois, c'est des films pour enfants, Star Wars, mais d'autres fois, ça l'est un peu moins quand même. Et là, Anakin, il va retourner voir Padmé. Puis il va tout lui dire. Tout ce qu'il a fait, OK? Tout. Va lui dire, Padmé, je les ai tous tués, les hommes, les enfants, les femmes, ils ont tous passé, je les ai saignés comme des animaux.
Même les femmes. Et aussi les enfants, tous.
Faut que vous compreniez que ce que Anakin est en train d'expliquer à Padmé présentement, c'est que dans sa tête à lui, c'était normal de les tuer, que la vengeance est un sentiment correct, que pour lui, ils méritaient tous de mourir. Et pour ceux qui se demandent, Yoda va avoir le sentiment, OK, qu'il se passe quelque chose de pas correct avec le jeune Skywalker. Il est capable de savoir quand le jeune Skywalker va mal pendant qu'il est sur une autre planète, OK, mais il est pas capable de savoir que Palpatine, c'est l'empereur et qu'il fait plein de manigances. C'est un détail sur lequel il faudra passer par-dessus.
Le jeune Skywalker a mal.
Et après avoir avoué tout ça, OK, à Padmé, après avoir expliqué qu'il est un vengeur assassin de classe mondiale, voici ce que Padmé va lui répondre.
La colère est un sentiment humain.
Et là, je m'adresse aux femmes et aux filles qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous, là, un homme qui vous avoue avoir égorgé une tribu de façon tout à fait impulsive... d'avoir tué tout le monde là-bas pour le plaisir de les voir mourir. Ça vous chauffe, ça, vous? C'est quelque chose qui vous excite? Les psychopathes, tueurs sanguinaires, c'est votre genre? De retour au film maintenant, où Obi-Wan va envoyer un message à Anakin parce qu'il a découvert une conspiration de la Guilde des Marchands.
La Fédération du Commerce s'apprête à y prendre livraison d'une armée de droïdes.
Obi-Wan va se faire prendre prisonnier sur la planète Geonosis, en tout cas, par le Seigneur Tyrannus, le Comte Dooku, ouais. Et lui, le Comte Dooku, il va tout dire à Obi-Wan. Il va lui envoyer de l'exposition là, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe dans le film en à peu près 2 minutes. Il va même lui dire, mot pour mot, que le Seigneur des Sith a pris le contrôle de la République.
Et je vous disais que la République est à présent sous le contrôle du Seigneur Noir des Sith.
Et ça tombe bien parce que parlant de la République, Jar Jar, oui, on ne l'avait pas vraiment vu dans le film encore, mais Jar Jar va donner les grands pouvoirs à Palpatine. Il va permettre à Palpatine de devenir à quelque part l'empereur. Jar Jar, il aura vraiment fait chier jusqu'au bout. Quoi.
Plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine.
Palpatine, lui, prend bien sûr les pouvoirs avec humilité et respect du protocole, mais décide quand même d'activer l'armée de clones juste au cas.
Sera de créer une grande armée de la République.
Padmé et Anakin, eux, arrivent enfin sur Geonosis afin de sauver Obi-Wan. Et ils se retrouvent dans une situation rocambolesque où ils devront survivre à une chaîne de production. C'est tellement cool, cette scène-là, que je me peux plus, OK? C'est vraiment une aventure incroyable. Même R2 et 3PO en font partie. Mais attention, hein, parce que tout n'est pas forcément acheté dans cette scène de chaîne de production-là. Par exemple, il y a très peu de dialogue. Donc, ça nous permet de focusser sur l'action au lieu d'écouter des gens dire des conneries. Par contre, et malgré tous leurs efforts, je dirais, ils finissent quand même par se faire prendre prisonnier.
Je suis morte un petit peu chaque jour depuis le moment où je t'ai revue.
Et une fois prisonniers, bien, ils vont finir au cirque parce que les termites qui volent, qui habitent sur Geonosis, eux, ce qu'ils aiment, là, c'est comme les Romains, regarder des gens se battre dans une immense arène. Ouais.
Ensuite, on a décidé de venir vous délivrer.
Oh, bravo.
Et il va quand même se passer quelques trucs très divertissants dans cette arène-là parce que l'idée de voir nos héros sans ressources, devoir combattre des créatures, c'est plus ou moins ce qu'il y a de mieux dans tout le film.
Elle a l'air au sommet de sa forme.
Et quand je vous dis plus ou moins ce qu'il y a de mieux, c'est parce que ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est quand Padmé se fait attaquer et qu'elle perd la moitié de son chandail. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Obi-Wan, lui, fait de son mieux en se battant contre une bestiole et une colonne qui est tombée. Et Anakin, lui, joue au cowboy. Ouais, il se la joue cowboy. Et en fin de compte, les Jedi vont venir les secourir. Et vous en voulez des Jedi? En v'là des Jedi. Une orgie de Jedi. Il y a du Jedi partout. C'est un peu comme le fantasme d'une génération au complet sur grand écran. Après, moi, je pourrais argumenter avec vous que les robots du 1, c'était pas vraiment une menace dans le 1, donc c'est pas plus une menace dans le 2, et que les termites volantes ajoutent pas grand-chose à la menace non plus. Et on dit souvent qu'il faut pas trop juger sévèrement les films Star Wars parce que c'est des films pour enfants. Et voilà ma question. Quand Mace Windu là, se met à courir puis qu'il coupe la tête de Jango Fett devant son fils Boba Fett, est-ce que c'est un film pour enfants, ça? Sinon, les Jedi finissent encerclés par la bestiole puis le petit robot facile à tuer. Et par la magie du scénario, Yoda arrive avec l'armée des clones.
Un périmètre de sécurité autour des rescapés formés!
Tyrannus essaie bien sûr de s'évader, mais il a Obi-Wan et Anakin au cul. Tout ça pour se retrouver dans un hangar afin qu'il y ait un duel entre Obi-Wan, Anakin et Tyrannus. Mais juste avant le duel, on va apprendre que, vous savez, là, les petites termites qui volent, ben, c'est eux qui ont inventé la technologie de l'étoile noire. Oui, c'est eux qui ont inventé la technologie de l'étoile de la mort. La technologie la plus importante de tous les Star Wars a été inventée par des termites volantes. Moi, je croyais que c'était le papa à Jyn Erso, mais non. Apparemment, je me souvenais plus que c'était les termites volantes qui avaient inventé ça.
Je vais emmener les plans avec moi sur Coruscant.
Passons au duel entre Anakin, Obi-Wan et Tyrannus, comme Dooku. Et Anakin va subir un peu un cas d'éjaculation précoce.
Oh, Anakin, non! Non!
Obi-Wan va faire de son mieux, mais bon... ça va mal finir pour lui. Anakin va réussir à sauver la vie d'Obi-Wan, mais se faire couper un bras. De toute façon, je vous dirais que le duel qu'il nous avait vendu dans la bande-annonce, c'était pas celui d'Anakin et d'Obi-Wan, OK? C'était celui où Yoda se pointait avec son sabre laser.
Maître Yoda, Comte Dooku.
Est-ce qu'un maître de la force comme Yoda, du haut de ses 1m10 à peu près, devrait avoir à utiliser un sabre laser? Moi, personnellement, j'en doute, mais je vais vous laisser répondre à cette question-là. Mais ça change pas qu'on a un duel entre Yoda, avec son sabre laser minuscule, et le comte Dooku, seigneur Tyrannus. Et ça commence bien sûr par un exercice de la force.
Beaucoup encore, il te reste à apprendre.
Et je me souviens qu'il y avait une certaine tension, de l'excitation, quand dans la salle, on a vu Yoda sortir son petit sabre laser miniature. Les gens étaient tout excités. Mais j'ai envie de dire, tout ça pour ça, quoi. Surtout que Yoda laisse Tyrannus se sauver. Puis là, ben ça va faire en sorte que... ben, il va sauver la vie d'Obi-Wan puis Anakin, mais Tyrannus, lui, s'en va avec les plans de l'étoile de la mort. Fait que ça, c'est un peu la conclusion du film quand Tyrannus donne les plans à Palpatine, ben, à Darth Sidious.
La guerre a débuté. Parfait.
Pour s'assurer qu'on sache qu'on est rendu où dans le film, Yoda va nous annoncer que maintenant débute la guerre des clones.
De débuter. Vient juste la guerre des clones.
Anakin et Padmé, eux, se marieront dans une petite cérémonie intime où assistera à leur mariage C-3PO et R2-D2. Anakin, y a pas d'amis. Et c'est la fin de Star Wars épisode 2, la guerre des clones. Saviez-vous qu'en 2002, trois films ont fait plus d'argent que Star Wars au box-office mondial? Vous vous souvenez de ces trois films-là? À titre de référence, l'épisode 2 avait fait 645 millions total dans le monde. Spider-Man, premier du nom, avec Tobey Maguire, avait fait 800 millions. Harry Potter et la Chambre des Secrets, 878 millions. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, également un deuxième film de trilogie, avait fait 923 millions. Et saviez-vous que c'était la première fois qu'un film Star Wars était dépassé par d'autres films à son année de sortie? Oui, c'était jamais arrivé avant qu'un film Star Wars gagne moins d'argent qu'un autre film à son année de sortie. Même La Menace Fantôme était numéro 1 en 99. Et tout ça, là, le fait que Star Wars finisse quatrième au box-office de son année de sortie, est-ce que c'était pas l'indicateur que les choses étaient sur le point de changer? Parce que cette année-là, il a été dépassé par trois autres franchises, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Spider-Man. Et pour ceux que ça intéresse, La Revanche des Sith ne sera pas première non plus. Elle va être dépassée par Harry Potter par une cinquantaine de millions en 2005. C'était peut-être signe de quelque chose. Vous vous souvenez au début, je vous disais que l'épisode 2 pouvait pas être pire que l'épisode 1. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, avec le recul que le temps me permet d'avoir, là, ben, je pense que l'épisode 2 est un moins bon film que l'épisode 1. C'est selon moi le pire de la prélogie. Et inquiétez-vous pas, j'ai plusieurs raisons pour ça. Déjà, le personnage d'Anakin Skywalker n'est absolument pas attachant, selon moi, et il change de ton à presque toutes les scènes, quoi. Parfois, il est brave et courageux, et souvent, il est extrêmement agaçant et il n'arrête pas de se plaindre.
Et je te prierai de suivre mes directives.
Pourquoi?
Pourquoi?
Et il se plaint pratiquement à toutes les deux scènes du comportement d'Obi-Wan face à lui. Le problème, c'est qu'on nous montre jamais Obi-Wan être méchant face à lui. Non. On a Anakin qui se plaint tout le temps d'Obi-Wan, mais on nous montre aucun comportement dérangeant d'Obi-Wan.
Il n'arrête pas de me critiquer. Il ne m'écoute pas.
Donc, faut qu'on devine que Obi-Wan n'est pas gentil avec Anakin ou on doit croire Anakin sur parole parce qu'on a aucune preuve du comportement troublant d'Obi-Wan.
Il est jaloux! Il m'empêche de grandir!
Et ensuite, ben, l'histoire d'amour entre Anakin et Padmé n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison valable pour que ces deux personnes-là tombent en amour. La seule raison que je peux trouver, c'est l'attirance sexuelle. Parce que oui, c'est deux très belles personnes qui, théoriquement, n'auraient pas besoin de plus de raisons pour coucher ensemble. Mais de là à dire qu'ils sont en amour, c'est limite. Parce qu'à chaque fois qu'un ou l'autre ouvre la bouche, c'est pour réciter les pires dialogues que vous avez jamais entendus.
Tu t'es emparé de mon cœur et tu le mets au supplice.
Est-ce qu'il y a une partie de moi qui aurait préféré que les deux aient une histoire d'un soir dans l'épisode 3, après une mission compliquée, je le sais pas, ils se rapprochent, bang bang, et Luke et Léa viennent au monde sans qu'il y ait une histoire d'amour autour de ça? Oui, ça aurait même été un peu plus logique, je pense. Parce que c'est vachement pénible d'avoir George Lucas qui essaie de nous enfoncer dans le fond de la gorge pendant 2h20 la pire histoire d'amour de l'histoire du cinéma.
Tu m'aimes?
10 ans d'entraînement Jedi, ça veut plus rien dire pour Anakin du moment où Padmé lui monte son coup. Et pour Padmé, on en parle de ses années comme reine, comme sénatrice. Elle n'a pas acquis de la maturité à travers tous ces postes importants-là? Non. Parce que du moment où Anakin se secoue la tresse devant elle, elle perd toute logique.
De tout mon cœur. De toute mon âme.
Ensuite, on pourrait peut-être aussi se réjouir du fait qu'il n'y a presque pas de Jar Jar dans le film. Le problème, c'est que la seule chose que Jar Jar fait, c'est donner le pouvoir à Palpatine. Tu dis que George Lucas voulait que les gens continuent leur agressivité face au personnage de Jar Jar. Hein? Il fallait qu'il donne un rôle et il a donné le pire rôle du film. Et en passant, qu'est-ce qu'il fout au Sénat, Jar Jar et son QI de 36?
Missa propose que le Sénat...
Et tant qu'à dans les trucs que je comprends toujours pas, les Jedi sont absolument inutiles dans ce film-là. 80% du film, pardon, c'est des touristes. Parce qu'à un moment donné, là, ça fait 10 ans que Palpatine, le Seigneur Sith, Sidious, manigance juste à côté d'eux, puis personne s'en rend compte. Mais voyons donc.
Croyez-vous vraiment que Sidious contrôle le Sénat, comme l'a dit Dooku?
Un autre truc qui, avec le recul, je trouve poussé un peu, c'est que Yoda soit pas capable de se débarrasser de Dooku ou Tyrannus comme ça. Yoda est supposé être le Jedi le plus fort, non? Et là, il fait face à son ancien apprenti, puis il est pas capable de se débarrasser de son apprenti. Ça, faut me l'expliquer aussi. Je comprends pas la raison pour laquelle Yoda aurait de la difficulté contre Tyrannus. Parce que voir Yoda à force égale avec Dooku, c'est un peu insultant pour Yoda, non?
Cette querelle ne se réglera pas sur notre seule maîtrise de la force.
L'épisode 2 est tellement mauvais, OK, que Lucasfilm va passer 20 ans à créer des séries et des animés pour justifier tous les trous du scénario, quoi. L'épisode 2 est tellement mauvais que la plupart d'entre vous avaient oublié que c'est des termites volantes qui ont inventé l'étoile de la mort. L'épisode 2 est tellement mauvais que quand je regarde les acteurs réciter leur texte, parce que c'est ce qu'ils font, là, ils récitent leur texte, j'ai de la pitié pour eux. PS, la VF sauve beaucoup de choses dans le jeu des acteurs. Et double PS, jamais est-ce que je blâme les acteurs dans un film réalisé par George Lucas. C'est juste sa manière de diriger les gens. Il s'en fout des performances. L'épisode 2 est tellement mauvais qu'il est meilleur que La Menace Fantôme. Et ça, ben c'est la fin de Dimanche Navet.
Ça, c'est la photo,